Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Alors depuis presque 4 ans, La Clé des Ondes est diffusée non seulement sur la bande FM, sur le 90.10, mais aussi en DAB, DAB+, c'est la radio numérique. De quoi s'agit-il? Quelles implications pour nous, pour nos camarades aussi des autres radio-assos et pour vous, auditeurs? La journaliste Claire Cachouche-Soucy est allée à la pêche aux réponses pour mieux cerner les enjeux de cette évolution technique. Son documentaire, qui s'appelle « Drôle d'avenir pour les radio-assos », il a été mis en onde par Air d'Otan, radio associative basée à Lavor dans le Tarn. Et on l'écoute tout de suite et jusqu'à 13h sur La Clé des Ondes.
Drôle d'avenir pour les radios asso. Un collectage et une écriture sonore de Claire Cachouche-Soucy, mise en onde par Air d'Otan. Le 18 juin 2024, l'ARCOM publie le livre blanc de la radio. L'ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle est née en 2022 de la fusion entre le CSA et l'ADOPI. L'ARCOM, c'est elle qui accorde aux radios les autorisations à diffuser sur les fréquences de la bande FM ou en DAB+. Le DAB, ça vous parle? Faites-vous partie du quart des Françaises et Français qui savent un peu ce que c'est? DAB, DAB, c'est l'acronyme de Digital Audio Broadcasting. En fait, c'est la technologie numérique qui permet de diffuser la radio par ondes hertziennes. On l'appelle donc aussi RNT, Radio Numérique Terrestre. Et ça, ça doit vous rappeler quelque chose. La TNT, pour la télé numérique terrestre, lancée en 2005 en France métropolitaine, puis généralisée en 2011. Ce fut alors un grand changement pour les acteurs de l'audiovisuel, pour les téléspectateurs en particulier, qui avaient dû s'équiper. Et bien voilà, dans le monde de la radio, ça bouge aussi. En partant à Narbonne début juin, avec une partie de l'équipe de Air d'Otan, on a pu participer aux états généraux de la CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives. Et là-bas, on y a vu plus clair sur les enjeux et les défis de cette nouvelle révolution numérique pour les radios associatives. Vous allez donc entendre des témoignages sur les difficultés, les stratégies, les interrogations de plusieurs d'entre elles, certaines ayant déjà franchi le cap du DAB+, d'autres non.
Die, c'est une ville de moyenne montagne dans les Préalpes. Donc on est encerclé de montagnes. Côté sud, à peu près entre 1000 et 1300 mètres d'altitude. Côté Vercors, 2000. Donc on fait partie des zones où l'ARCOM, malgré tout ce qu'ils disent, n'a absolument pas prévu d'allotissement. C'est des zones rurales, c'est un peu trop compliqué, quoi. Il y a 15 radios, ou 17 je crois, sur l'émetteur principal. Radio commerciale et en associative, on est tout seul. Et en FM1. Hein. Alors Baptiste, Radio Diwa, à Die dans la Drôme.
Vous en êtes où, vous, au niveau de la réflexion ou de l'action vers le DAB?
C'est une nouvelle technologie d'émission. On est parti sur le stream, on est parti sur tous les supports qu'on pouvait. On a essayé de rentrer dans des box, dans les applis et tout. Pourquoi pas? Il y a un autre débat, GAFAM, pas GAFAM, consommation de données. Moi, je suis pas
vous
contre.
Vous êtes plutôt parti, vous, vers l'IP?
En tout cas, on en fait. On fait du stream, comme toutes les radios. Et après, on peut s'enregistrer dans des banques d'IP. Je ne me rappelle plus le nom, mais on est enregistré, par exemple, dans la grosse banque d'IP qui est développée par le groupe Volkswagen. Quoi, tu vois, Donc, on est disponible dans une liste de 200 000 radios, ce qu'on appelle les radios IP, là, tu vois, que tu branches et toc, tu as une liste déjà. Parce que je trouvais ça intéressant d'être là. Bah, c'est complètement noyé dans la masse. Je ne sais même pas si ça fonctionne ou que ça sert à quelque chose. Mais on produit qu'un seul stream à ce moment-là, tu vois, on n'est pas en train de multiplier, c'est bien nos serveurs quand même qui envoient. Donc le DAB, moi, a priori, je suis pas contre. Maintenant, puisque c'est pas planifié, ben, on n'a pas à se poser cette question. On fait partie des poches FM qui vont rester, je pense.
La sélection musicale du festivalier.
Guillaume Delorme, bénévole à 48 FM, secrétaire de l'ANRA et vice-président de la CNRA. Alors nous, on est effectivement dans un département hyper rural, comme vous le savez, la Lozère, département le moins peuplé de France. Mende, la ville chef-lieu, à 12 000 habitants. Nous, on est mis sur Marvejol et Langogne, donc deux communes dans les communes principales, dans les principaux bourgs du département. Et au final, on va à peu près couvrir la moitié de la population du département. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le DAB parce que, chez nous, il n'y a pas 13 personnes prêtes sur notre territoire, qui est la plaque locale pour la Lozère, c'est toute la Lozère.
Quand il parle de 13 personnes, ce qu'il veut dire, c'est qu'en France, pour occuper un multiplex de diffusion radio en DAB+, il faut 13 éditeurs, soit 13 radios.
Donc l'hypothèse du small scale DAB, c'est une des solutions. Après,
Qu'est-ce que c'est, pardon ?
C'est des petites puissances. Et avec le fait qu'on peut être tout seul ou simplement à deux ou trois radios et pas atteindre forcément les 13, on ne sait pas si ça va permettre justement de couvrir autant que ça couvrait aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir finalement arriver à avoir une zone qui est... économiquement viable, parce que si c'est toute la Lozère, ce ne sera pas économiquement viable. Viable par rapport au projet radiophonique, parce que avec Radio Bartas, à une époque, on était 48 FM Mende et 48 FM Florac. Et on s'est séparés en 2012 en très bons termes, parce que à la suite d'évolutions dans les équipes, on avait la volonté de faire des projets radiophoniques différents. Complémentaires, avec des valeurs communes, avec des envies communes, avec des convergences, mais des projets différents. Donc si demain, en fait, on se retrouve à être en concurrence parce qu'il faut être sur la plaque Lozère, c'est un peu dommage parce qu'au final, on a fait des projets de radiophonie qui correspondaient à nos territoires à un moment. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que la technique trouve des façons de mettre en valeur nos projets radiophoniques et que ce ne soit pas l'inverse, que ce ne soit pas la technique qui nous contraigne à faire des projets radiophoniques par rapport à ça. L'envie de passer au numérique, pourquoi pas. Effectivement, un meilleur son, des données associées, etc. Ça peut être des images, ça peut être un visuel de l'émission. Enfin voilà, des liens qui sont proposés dans le DAB+, puisque c'est pas de la vidéo, mais c'est une illustration de ce qui... Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous intéresser. On peut avoir envie de faire cette bascule-là, mais il faut que ça s'adapte au projet radiophonique. Et puis, y a un enjeu aussi, c'est le renouvellement des postes, parce que...
appelle les récepteurs, donc.
Les postes récepteurs dans les voitures, dans les maisons. Comptez autour de vous combien vous avez de récepteurs radio dans votre maison, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le garage,
Des récepteurs qui captent pas aujourd'hui la radio numérique.
Eh ben non, des trucs qu'on vous a donnés, des trucs que celui qui passait un peu moins bien pour le salon, vous le mettiez au garage pour bricoler ou dehors sur la terrasse pour quand vous prenez l'apéro. Tout ce matériel-là, comme ça a été le cas pour la bascule de la TNT, avec la RNT, il y aura cette nécessité de faire évoluer le matériel. Alors, il y avait eu des adaptateurs qui avaient été mis à un moment pour la TNT, parce que l'écran a une valeur. Là, je pense que pour une valeur plus importante qu'un haut-parleur, je pense que là, il va falloir vraiment changer les postes. Et donc, c'est aussi un investissement. Et avant de se retrouver, être pareil dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le garage, sur la terrasse, il faudra un peu de temps pour que les gens s'équipent, parce que un poste, ça a un peu de valeur, quoi.
Ce dont on parle là, tes auditrices et tes auditeurs, ils captent rien. Personne n'a expliqué à la population qu'une nouvelle technologie similaire à la TNT est en train de se développer pour la radio. Qu'est-ce que ça signifiait pour eux ? Et aujourd'hui, les appareils nouveaux qui sont produits ont les deux technologies embarquées et personne ne se rend compte qu'ils sont un coup en DAB+, un coup en FM.
Baptiste, Radio Diwa.
Donc en fait, débat d'un problème qui est le nôtre, tu sais, entre techniciens ou avec l'État, mais les gens, ils en ont rien à paner, ils sont même pas au courant. C'est pour ça aussi que même les grandes radios n'y vont pas. Même Énergie, c'est le premier groupe Towercast qui a dit non, alors qu'ils ont la plupart des sites, ils les ont pas déployés. En disant non, mais c'est la merde, on comprend pas. Mais si tous les auditeurs disaient putain, en fait, c'est génial, le service il est bien, le son est mieux, je demande à le vérifier, c'est plus efficace, on vous retrouve facilement, j'en sais rien, n'importe quoi, si l'expérience était bonne. Mais les gens ne savent pas. Donc du coup, personne ne sait que c'est en train de changer de technologie.
Mais pour la télé, en fait, si les gens sont passés à la TNT, est-ce que c'est par un choix qualitatif ou c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix puisqu'on a coupé l'analogique ?
Alors, d'abord, ils n'ont pas eu le choix. Mais en plus, ils ont bien été au courant. C'est-à-dire que toutes les télés leur ont rabâché. Attention. Et puis, une fois que ça a été mis en route, ça n'a pas été éteint direct. Il y a eu les deux pendant un an, je crois. Donc les gens continuent à être là. Avec un message qui continue à leur dire « Attention, on coupe !» Et là, J-2, J-3, pouf, le truc s'est éteint. Et tout le monde a dû acheter un putain de décodeur avant que ce soit réellement intégré dans les nouvelles télés. Donc tous ceux qui avaient leur vieux machin se sont achetés un boîtier. Il y avait quelque chose d'hyper concret. Contraignant, hein, les achats, tout ce que tu veux. Mais tout le monde s'en est bien rendu compte. Là, c'est lisse. Les constructeurs, aujourd'hui, dans une bagnole, tu reçois ton autoradio d'origine. Et il fait les deux, personne ne le sait.
La problématique du DAB, ça vient d'où ? La TNT, on a imposé aux fabricants de télévision d'installer la TNT dans les récepteurs bien avant de switcher vers le mode numérique. Pourquoi ? Parce que les fréquences utilisées par les télévisions analogiques étaient vendues des milliards aux télécoms. D'accord ? L'AFM, ça n'intéresse personne, donc ça n'a pas été reproduit. Et on en pâtit. Je m'appelle Pascal Hilaire et je suis le patron de PHFcom, qui est basé à côté de Strasbourg, et j'y ai aussi une radio qui s'appelle Fréquence Verte, plus une deuxième dans laquelle je suis qui s'appelle Accent 4, qui est une radio de musique classique, et dans les deux cas, ces radios sont diffusées en DAB aussi.
Comment vous avez procédé ? Vous pouvez nous raconter un peu ?
Accent 4 est une radio qui est assez bien implantée en Alsace avec un certain nombre d'émetteurs, donc qui a eu la chance d'avoir eu l'autorisation d'être sur l'étendue, donc de couvrir tous les deux départements, aussi bien le Bas-Rhin que le Haut-Rhin, si bien que ça lui donne une couverture qui est importante. En revanche, évidemment, c'est des coûts supplémentaires. Du coup, on est obligé d'augmenter le chiffre d'affaires pour compenser ces nouvelles dépenses. Et du coup, ça nous crée des problèmes au niveau du FSER, puisqu'on a perdu des revenus à ce niveau-là, du fait de dépasser le plafond alloué par le FSER. C'est-à-dire que quand vous faites trop de chiffre d'affaires, le FSER dit eh « ben, on vous donne moins d'argent », ce qui est un petit peu pervers.
Alors, le FSER, c'est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Cette subvention est accordée aux radios associatives par le ministère de la Culture, pour leur permettre de mettre de l'énergie dans la communication sociale de proximité. Pour l'obtenir, aujourd'hui, les équipes remplissent chaque année un sacré dossier avec une myriade d'attestations de réalisation à faire remplir aux acteurs du territoire.
Alors, combien en plus ? C'est quoi le surcoût depuis que vous faites la diffusion en DAB+ ?
Sur la partie DAB, je pense que ça doit représenter 10 à 12 000 euros par an, sans doute, à peu près.
En surcoût ?
En surcoût, oui, bien sûr, oui.
Comment vous faites pour trouver cet argent en plus ? Quelles sont vos stratégies ?
Là, on a fait appel à des dons pour compenser, mais on réfléchit à des solutions plus pérennes pour l'avenir, parce qu'on ne peut pas chaque année... Et à un moment donné, la radio était, je peux me tromper, à quelques milliers d'euros près, mais a tourné pendant longtemps avec un budget qui était aux alentours de 200 000 euros, ce qui permet effectivement de toucher le maximum du FSR. Mais là, la radio, pour faire ce qu'elle a à faire, a besoin de 250 000, sans enrichir personne, hein. Il y a quelques salariés, mais on ne peut pas dire non plus qu'ils roulent sur l'or. Hein. Il va falloir trouver des solutions, on y réfléchit.
Ce serait quoi ? Accueillir de la publicité ? Faire plus de prestations ?
C'est les deux à la fois, peut-être, oui. Mais la publicité, je pense que de toute façon, il faut l'aborder différemment. Aujourd'hui, les grosses radios commerciales ont une problématique de trop de publicité par rapport à tous les autres médias audio qui existent sur le terrain. Et donc, il faut réfléchir peut-être à de la publicité, mais peut-être pas sous la forme qu'elle a sur les gros médias qui en font actuellement.
Il y a plusieurs possibilités de ressources financières. Il ne faut pas hésiter à que quelqu'un dans la radio porte la casquette d'un commercial publicitaire. S'il a les moyens, s'il a la tchatche, s'il sait vendre avec des grilles de tarifs inférieures à des radios commerciales. Par exemple, 20% inférieure, ça peut passer. Je suis le président de Diversité FM, la Radio del Pueblo. On est basé sur le centre et l'est de la France, en Bourgogne-Franche-Comté et en région Grand Est. Sur la diversification des ressources, il y a des possibilités d'avoir des financements au niveau des projets. Et aussi, si la radio diffuse d'une certaine qualité, assez loin, elle peut aller chercher des annonceurs, comme des établissements scolaires, des fédérations de maisons familiales qui prennent de la publicité chez des radios commerciales et pourquoi pas chez des radios associatives, des piscines municipales. Nous, on a un peu de publicité. On n'est pas, il y a des radios associatives qui sont meilleures que nous. Nous, on a à peu près 10% à ce jour. On est une radio jeune, on n'a que 6 ans d'existence, mais on a à peu près 10% de notre chiffre d'affaires en pub commerciale. Bien sûr, des messages d'intérêt collectif ne sont pas classés en pub commerciale. Hein, on est bien d'accord. Donc, à peu près 10%. Et on espère élever jusqu'à 18% parce que la loi, notamment pour le FSER, bloque à 20%. On ne doit pas être au-delà de 20%.
Vous en êtes où, vous, avec le DAB ?
Nous diffusons sur le DAB sur toute une partie de la Bourgogne et de la région Franche-Comté.
Alors, aujourd'hui, maintenant que vous avez franchi le pas, quel enseignement vous en tirez ? Quelles conclusions ?
Alors, économiquement, ça peut être un coût. Au lieu d'avoir un salarié en plus, ben on compte sur 2 ou 3 bénévoles en plus pour faire un peu le travail d'un salarié, parce que nos bénévoles font un bon travail et que ben, c'est des bénévoles. Et aussi, la stratégie, c'est d'installer son propre pylône ou trouver des arrangements techniques avec des diffuseurs pour faire des économies de coûts. Si on passe par TDF, par exemple, pour une fréquence DAB+, par exemple, en DAB local, c'est à peu près 6 500 € minimum à l'année pendant quelques années, et après, ils augmentent. Si on passe par des diffuseurs comme Digris PHF, par exemple, ça a été notre cas, avec l'autorisation d'installer sur un pylône où une radio est propriétaire, on peut avoir un tarif annuel d'à peu près 4 000 €. Donc c'est ça un peu l'avantage. Du côté de l'Alsace, ils ont installé eux-mêmes un propre pylône et ça leur coûte 2 000 € par an. Voilà les exemples, il y a plusieurs strates de financement. Mais voilà, après, je peux comprendre que les radios soient méfiantes du DAB+. Il faut surtout lutter pour cette diversification des moyens de diffusion, c'est-à-dire maintenir la FM, mais aussi, pour ceux que ça intéresse, éventuellement avoir la possibilité d'avoir le DAB+. Mais il faut surtout maintenir la FM. C'est une notion de liberté parce que le DAB+, ou même la diffusion par IP ou sur Internet, peut être contrôlée par d'autres services un peu plus obscurs qui seraient parfois même pas français. Genre des groupes, des grands groupes qui risquent à l'avenir de contrôler comme Amazon, comme d'autres qui peuvent contrôler la diffusion sur IP.
Quand j'écoute la radio, le matin quand je m'éveille, c'est tous les jours pareil. À la radio, on chante que tout est beau. En demain et que tout ira très bien. Tous les jours quand j'écoute la radio, on cherche la félicité sur tous les chemins d'été. On dit que l'amour est là entre deux commerciaux. Ce que tu veux, je l'ai. Allons, laisse-moi t'aimer. Tous les jours quand j'écoute la radio. Pardon mademoiselle, quel poste écoutez-vous? Un joli bateau, c'est le bateau du bonheur qu'on donne du fond du cœur.
Jean-Marc Courage-Sénac, je suis président d'une radio qui est basée dans les Hautes-Pyrénées, qui s'appelle Atomic Radio, spécialisé dans les musiques électroniques. Je suis également co-président de LARA avec Siam Mineur. LARA, c'est l'Assemblée régionale des radios associatives en Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Et je suis également co-président de la CNRA, la Confédération nationale des radios associatives, à laquelle LARA, la fédération donc régionale, est rattachée. Dans les années à venir, est-ce qu'il n'y aura pas un risque que la bande FM soit ringardisée techniquement? Donc là, il y a une question qui se pose. Mais il y a une autre question qui se pose aussi. C'est le DAB+, est-ce qu'il ne va pas être ringardisé par votre smartphone, c'est-à-dire par une écoute en IP, via des connexions 4G, 5G et tout ce qui va arriver par la suite? Mais avec, là, il y a une autre question qui se pose, c'est l'indépendance de notre média par rapport à des opérateurs télécoms. C'est Orange, c'est SFR, c'est Free, c'est Bouygues Télécom qui peuvent couper le robinet quand ils le souhaitent. Alors, pour l'instant, la loi ne les y autorise pas parce qu'il y a une neutralité des opérateurs télécoms. Ça, c'est garanti par la législation. Nous, il faut vraiment qu'on ait une certaine indépendance vis-à-vis d'opérateurs télécoms qui sont surpuissants par rapport à ce que nous pouvons représenter. Et donc il y a un risque aussi de prise en main de ces opérateurs télécoms qui pourront, s'ils le souhaitent, faire passer uniquement les radios qui auront signé des contrats avec eux ou autres. Donc quid de la présence des radios associatives et même des radios locales en général sur ces plateformes d'écoute en IP? La question peut être posée en tout cas. Et elle nous inquiète. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et c'est pour ça que là, pour l'instant, il est préférable d'assurer la maîtrise de notre diffusion via le mode traditionnel qu'on a toujours connu en radio, c'est-à-dire le mode broadcast. On peut dire que c'est une norme vieillotte, vive l'IP, tout va bien. La norme broadcast, ça va de l'émetteur au récepteur. La bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas du récepteur à l'émetteur, contrairement à l'IP. Parce que l'IP, ça va du serveur jusqu'à votre smartphone, mais votre smartphone, il va aussi du smartphone vers le serveur. Et donc on peut savoir quand est-ce que vous écoutez, à la seconde près quand est-ce que vous allez zapper, quels sont vos centres d'intérêt. Allez, on va mettre quelques cookies, on va voir quel site internet vous êtes allé voir. Donc quelque part vous êtes espionné. Est-ce que vous voulez écouter la radio en toute autonomie déjà et aussi en toute discrétion? Ou est-ce que vous voulez savoir et indiquer à tout le monde que vous avez écouté telle ou telle émission? Quels sont vos goûts musicaux? La couleur politique que vous supportez? Quelle est votre sexualité? Moi, je préfère un mode broadcast plutôt qu'un mode intrusif où là, on est sur un mode espionnage de la personne. Même si je comprends aussi certains éditeurs radiophoniques, commerciaux cette fois-ci, qui trouvent bien évidemment un intérêt à connaître parfaitement les auditeurs, à reconnaître en fait quels sont leurs goûts, quel est leur âge, leur sexualité, etc., etc., pour ensuite leur proposer des publicités ciblées. Nous, on n'est pas sur ce modèle économique-là. Donc c'est vrai qu'on est quand même assez exigeant par rapport à l'intérêt de l'auditeur et des auditrices. Donc c'est vraiment de protéger aussi leur anonymat, et un anonymat qui est vraiment garanti par le mode broadcast, ce qui n'est pas le cas avec le mode IP en écoute.
Et en DAB ?
Et en DAB, c'est exactement la même chose, c'est le mode broadcast, c'est-à-dire que ça va de l'émetteur jusqu'au récepteur. Que ce soit FM, DAB+, bientôt il y aura aussi une écoute, vos autoradios et en voiture, puisque la radio s'écoute énormément en mobilité, les autoradios seront aussi connectés en IP et on pourra donc écouter et faire de la bascule parfois entre la FM, le DAB et la radio en IP en conservant le même programme. Mais vu que ces radios seront connectées en IP, est-ce qu'il n'y aura pas une remontée, même sur ce que vous faites, est-ce que vous écoutez en FM ou DAB+? Mais là, c'est des questions en RGPD, donc vraiment qu'il va falloir analyser pour garantir la sécurité quelque part des auditeurs et des auditrices. Mais là, c'est vraiment une question philosophique aussi sur l'avenir de la radio. Comme très souvent d'ailleurs, et la technologie va très très vite, et c'est notre adaptation en fait à ces nouvelles technologies et tous les dangers en fait que cela peut induire, c'est là où nous devons être hyper vigilants.
Sur la question automobile, qu'en est-il aujourd'hui du lien entre la révolution vers la radio numérique terrestre et comment les industries automobiles suivent, sont contraintes de suivre ou pas, sur quel type de véhicule?
Alors il y a des règles, règles européennes d'ailleurs, où la puce DAB+ doit être présente sur les autoradios pour les véhicules particuliers. Donc, ce qui fait que désormais, tous les véhicules que vous achetez, normalement, ont la puce DAB+.
Les véhicules neufs.
Neufs, oui, oui, bien sûr, oui, les véhicules neufs ont la puce DAB+ pour recevoir les radios en DAB+. Et malheureusement, cette règle européenne ne s'applique pas pour les véhicules utilitaires, où pourtant, une grosse partie de notre audience se fait aussi pour les personnes qui peuvent faire des kilométrages assez importants en écoutant la radio.
Avec les types d'Aceti. Alors des fois il y a des plugins un peu prêts, comme le plugin vinyle, il est trop bien. Je sais pas si tu as un plugin vinyle que tu peux rajouter à Audacity et tu choisis de l'année de ton vinyle. Tu peux mettre 1900 ou 19, jusqu'à 2000.
Oh, c'est cool.
Et tu as plus ou moins de graines. Mais ça c'est des plugins qui sont selon les bénévoles qui les créent, quoi. C'est des passionnés qui font des plugins.
Et merci beaucoup à Claire Cache-Couche-Soucy pour ce documentaire et à Air d'Otan, radio camarade, radio ami, basé à Lavore dans le Tarn, pour donc ce documentaire sur le DAB+ et les radios associatives. Un mot d'agenda pour aujourd'hui, mardi 17 septembre. Ce soir, il y a une réunion d'information sur le projet de ligne à grande vitesse dans la perspective de la mobilisation freinage d'urgence, une mobilisation qui aura lieu les 11, 12 et 13 octobre prochains. Le lieu n'est pas encore connu, mais ce sera probablement sur le tracé ou autour du tracé entre Bordeaux et Toulouse et Bordeaux et Dax pour ce projet de ligne à grande vitesse. Réunion d'information, donc je disais, qui a lieu ce soir à partir de 19h à la Halle des Douves dans le quartier des Capucins. Voilà, c'est le rendez-vous pour être informé, pour savoir comment va se passer cette mobilisation, comment y aller, pourquoi y aller et surtout pourquoi se mobiliser maintenant dans cette période cruciale juste avant le démarrage des travaux, ou alors que les premiers travaux ont déjà commencé d'ailleurs entre Bordeaux et Toulouse.